La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. C'est le second volet du portrait sonore de Jacqueline Kizerbo, enregistré à Ouagadougou, chez elle, quelques semaines avant sa disparition en décembre 2015. Après l'éducatrice, découvrez la figure militante qu'a été Jacqueline Kizerbo dans la construction du Burkina Faso.
Je suis née à Ségou, sur les bords du fleuve Niger, et d'une famille plutôt musulmane, car mon père a été le premier à être baptisé dans sa famille, et ma mère la seule qui s'est convertie au christianisme dans sa famille. J'ai appris le militantisme en famille, car mon père a été un syndicaliste qui a beaucoup lutté pour l'indépendance au Soudan.
Mon père était quelqu'un de très atypique, issu d'une famille traditionnelle, mais baptisé par les sœurs qui visitaient les malades dans les quartiers. Lui, il était malade. Et mon grand-père, qui l'aimait beaucoup, a accepté que les religieuses le baptisent du nom de Lazare. Donc ce n'est pas par hasard qu'on lui a donné le nom du ressuscité.
Donc vous grandissez dans un monde bambara. Vous êtes issu de la lignée des Massassi. Nous sommes à l'époque au Soudan français, donc sous la colonisation. Votre père se convertit au catholicisme. Il devient Lazare Koulibaly. Et par ailleurs, il a une autre religion, j'allais dire par provocation. C'est le communisme. Parce que c'est également quelqu'un d'extrêmement engagé. C'est un militant, un syndicaliste.
Il a été baptisé enfant. Donc, il a reçu une éducation chrétienne à la mission catholique de Ségou. Mais par tempérament, c'était aussi un combattant, un militant qui n'admettait pas l'injustice. Le fait que des travailleurs soient privés de tout droit, ça, il ne le supportait pas. Donc, il est devenu un dirigeant syndicaliste à l'UNTM, l'Union Nationale des Travailleurs du Mali. Sur le plan syndical, ils ont adhéré à la CGT, la Confédération Générale des Travailleurs Français. Et sur le plan international, ils ont adhéré à la FSM, la Fédération Syndicale Mondiale, qui était d'obédience communiste, ça il faut le dire. C'est assez étrange de voir ce converti chrétien pratiquant à sa manière le christianisme. Je crois que dans le christianisme et le communisme, il retrouvait toujours cette défense des pauvres, de ceux qui sont brimés et de ceux qu'on essaye de dépouiller de leurs droits. C'est là qu'il se retrouve à la fois chrétien, pas communiste, il n'a pas été communiste, mais il a milité avec les communistes. Je me souviens que j'allais le voir parfois à la CGT à Paris, à la rue Lafayette, quand il venait pour des réunions. C'est vraiment quelqu'un d'assez caractéristique, très fougueux, très combattant.
Jacqueline Kizerbo, j'ai relevé cette phrase, c'est vous d'ailleurs qui avez fait cette citation de votre père. Le blanc travaille peu et se contente de signer, et plus il gagne. Le noir casse des pierres, et moins il gagne. Que voulait dire votre père ?
C'est justement cette injustice dans la répartition du travail et des revenus du travail qu'il n'acceptait pas, qu'il combattait, et qu'il voulait que le revenu du travail soit égal pour tous ceux qui exercent le même travail. Une des caractéristiques du colonialisme, c'est justement que le colon vaut toujours mieux que le colonisé. Donc c'est l'injustice imposée au colonisé par le colon qu'il a toujours combattu. Ce n'est pas la couleur de la peau qui doit déterminer le salaire, mais c'est le travail exécuté et la responsabilité assumée qui doit aider à déterminer le salaire. Donc c'est toujours ce combat contre l'injustice.
Et pour cela, il a même été emprisonné. Il a vraiment été un grand militant.
Oui, je me souviens très bien du jour où, en plein midi, à Bamako, les gardes républicains sont venus fouiller notre maison et emmener mon père à la prison qui se trouve aujourd'hui à Bamako-Croix. Et comme il était très actif, très fougueux, évidemment, le colonisateur l'avait à l'œil et on a essayé de le maîtriser. Mais la détermination des travailleurs a fait qu'on a dû aussi le libérer. Et il a pu venir à la maison.
On dit souvent que pour une fille, son père, c'est son premier amour, le premier homme de sa vie. Et ensuite, il y a eu la rencontre avec celui qui va devenir votre mari.
Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour mon père. Sa combativité, sa détermination dans tout ce qu'il faisait, sa générosité aussi vis-à-vis des parents. Mais Joseph Kizerbo, étudiant en France, venait en vacances chez lui et passait donc par Bamako. Au sortir d'une messe à la cathédrale de Bamako, il a dû me remarquer. Et
à la sortie de la messe, j'ai vu un groupe de 3 ou 4 jeunes filles de Bamako qui bavardaient entre elles. Et mon regard s'est porté sur l'une d'entre elles. Et je ne sais pas, j'ai décidé que cette personne devrait être ma femme. Comme ça, aussi simple que ça. Alors j'ai dit, il faut que je voie cette fille pour parler si possible avec elle, mais surtout avec ses parents, parce qu'en Afrique, il faut commencer par les parents aussi. Donc j'ai fait plusieurs démarches avant de quitter Bamako. Lazare Koulibaly, qui était un syndicaliste extrêmement célèbre pendant la période avant l'indépendance, un grand militant des luttes sociales et aussi politiques, eh bien, il était content de me rencontrer parce que nous avions à peu près les mêmes vues, les mêmes attitudes sur les problèmes généraux de l'Afrique. Mais, bien entendu, il m'a dit, il faut voir avec l'intéressé. C'était un homme très ouvert, très libéral, si bien que de fil en aiguille, comme ça, nous nous sommes fiancés et nous nous sommes mariés ici, à Saint-Séverin.
Lorsque vous acceptez de devenir l'épouse de Joseph Kizerbo, pour vous, qu'est-ce que cela signifie ?
Mon mariage avec Joseph est un choix, il n'est pas une contrainte. D'abord, il venait de France, donc c'était important. Il était grand. Et Joseph était courtois, poli et respectueux. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'important pour une jeune fille, que la rencontre se passe dans le respect mutuel. Et pour moi, c'était une promotion et mon père était aussi heureux de ce choix.
Est-ce que vous auriez pu choisir un époux qui aurait déplu à votre père ?
Non, je crois que ça aurait été difficile de dire non à mon père à cette époque.
En 1958, j'ai suivi mon mari Joseph en Guinée pour des raisons nationalistes, car la Guinée était marginalisée et dans le chaos pour avoir opté pour l'indépendance.
Alors parlons de votre engagement de couple, comme votre fille Françoise le souligne et nous le fait entendre à travers ses citations de texte dans sa voix. De quelle façon, avec Joseph Kizerbo, vous fondez l'UMLN, le Mouvement de Libération Nationale?
Il faut dire que avant de quitter la France en 1958, nous avions créé le Mouvement de Libération Nationale et que Joseph Kizerbo et moi-même, nous étions d'accord avec ces intellectuels africains qui voulaient soutenir l'indépendance de la Guinée. Nous voulions aller sur le terrain et relever le défi de la construction de la première nation ouest africaine francophone qui avait décidé d'être indépendant et de ne pas être inféodé à la communauté que le général de Gaulle proposait. Et lorsque Sékou Touré nous a fait appel pour venir renforcer l'équipe des enseignants en Guinée, puisque les enseignants français avaient été retirés et ramenés en France, Sékou Touré avait besoin d'enseignants. Lorsque nous sommes allés là-bas, nous avons été tout de suite nommés au cours normal de jeunes filles comme directrices. Donc nous avons commencé à travailler à la formation des jeunes filles au cours normal de Conakry. Joseph Kizerbo, agrégé d'histoire au lycée de Donka. Et évidemment, une des premières choses qui nous a interpellés, c'est la nature même des programmes d'enseignement, puisque c'était des programmes étrangers qui étaient enseignés. Il fallait donc se demander si ces programmes convenaient aux élèves guinéens que nous étions censés aider à mieux appréhender la Guinée et l'Afrique. Donc, il y a eu des commissions de réforme, notamment la réforme de l'histoire, avec aussi un accent particulier sur les sciences et les mathématiques. On voulait vraiment que les élèves qui sortaient de ces établissements-là puissent contribuer au développement dans tous les sens et pas seulement dans la théorie. De l'Afrique est fondée dans les années 56-58. Donc la question de la libération politique de l'Afrique se posait déjà avec la perspective très claire de l'indépendance et aussi de l'unité africaine des différents pays colonisés. Ce qui est important de souligner, c'est que le colonisateur avait fait des fédérations d'Afrique équatoriale, d'Afrique occidentale pour les colonies françaises. Mais dès qu'il s'est agi de l'autonomisation des pays, on a tout de suite vu l'ombre de la balkanisation se profiler. On voulait traiter les problèmes au cas par cas et non pas de manière regroupée.
Pour Joseph Kizerbo et pour vous-même, Jacqueline Kizerbo, cette idée d'indépendance est incompatible avec cette idée de communauté française. Vous vous sentez beaucoup plus proche du leader nationaliste guinéen, Sékou Touré, que d'Anoufouette Boigny.
Bien qu'ayant apprécié le combat contre le travail forcé chez Anoufouette Boigny et les luttes qu'il a pu peut-être mener tout en étant dans la communauté, on se sentait plus proche de Sékou Touré. Parce que c'était non seulement l'indépendance théorique, mais c'était l'indépendance totale avec la prise en responsabilité de toute la politique, la défense nationale, l'économie, les affaires étrangères, qui dans le cas de la communauté relevait encore de la France. Donc c'était une indépendance plus totale.
Dans quelles circonstances quittez-vous cette expérience, qui est une expérience pionnière en Guinée, donc d'africanisation des cadres et d'enseignement, pour venir à Ouagadougou?
Sékou avait fait un grand pas patriotique pour la Guinée, mais la Guinée ne représentait pas toute l'Afrique de l'Ouest. Tous les autres avaient dit oui, et donc étaient encore sous le joug de la colonisation. Donc c'était pour, si vous voulez, démultiplier la décision de Sékou Touré, démultiplier les expériences qui ont été menées là-bas pour servir les autres pays africains. Ce qui a été fait de bien, nous avons voulu l'apporter aussi dans nos pays respectifs.
Jacqueline Kizerbo, votre couple est un couple moderne, d'intellectuels. Vous faites partie des pionnières, des premières femmes lettrées, des premières cadres africaines, d'avant même l'indépendance. Vous participez à la construction nationale de votre pays, la Haute-Volta, en dirigeant l'école normale de filles et en formant cette première élite féminine africaine. Et votre mari, Joseph Kizerbo, est déjà reconnu comme historien brillant dans ces années de lutte pour les indépendances. Est-ce que le fait d'être justement éduqué, de faire partie des Africains émancipés, ne vous donne pas parfois une vision un peu trop enthousiaste de la réalité?
C'est ce que les dirigeants pro-communauté disaient, que nous n'avions pas atteint un stade de développement qui nous permette d'être totalement indépendants. Mais la réplique, c'était aussi que ça faisait combien d'années de colonisation et qu'on n'avait pas justement atteint ce stade de développement. Par conséquent, il fallait oser le développement pour s'en sortir. Aujourd'hui, je ne sais pas si on n'est pas toujours face à ce dilemme entre l'indépendance telle que nous la souhaitions et qu'on n'a pas encore tout à fait atteint et ce qu'on vit encore aujourd'hui.
Je ne pense pas que Jacqueline Kizerbo ait vécu ou vit toujours dans l'ombre de Joseph Kizerbo. Je préférerais une autre image. Je pense qu'ils ont vécu, ils ont travaillé en tandem. Ils ont partagé des idées fortes. C'est sûr que les époux partagent des idées, mais là, on avait quand même des idées importantes pour eux, pour leur épanouissement, mais aussi pour l'Afrique. Parce qu'ils voyaient tout au-delà d'eux-mêmes. Et ils voyaient tout à l'échelle de l'Afrique. C'était des amoureux de l'Afrique. Et donc, je ne sais pas si à ce moment-là, on peut dire que quand on avance ensemble, l'un est dans l'ombre de l'autre. Et je voudrais ici rappeler une idée de Joseph Kizerbo qui démontre ce que je viens de dire. Dans son livre « Posthume regard sur la société africaine », il dit que de même que l'esclave libère son maître en se libérant, la femme libère l'homme en se libérant. Donc, il était pour l'épanouissement de la femme et des femmes. Il l'a dit, il l'a prouvé. Et je n'ai pas eu l'impression que pour lui, Jacqueline Koulibaly, sa chère épouse, était à la traîne ou à sa suite. Il a toujours encouragé à œuvrer pour le développement aussi de l'Afrique. Je crois qu'ils ont conjugué leurs efforts pour matérialiser leurs idées, leurs opinions.
Si l'on doit qualifier le couple que vous formez avec Joseph Kizerbo, quels sont les qualificatifs que vous pourriez utiliser, Jacqueline Kizerbo?
Nous étions un couple plein d'ambition pour l'Afrique, peut-être une ambition démesurée. Et disons que nous étions des patriotes et des panafricanistes. On n'a jamais été libres penseurs, puisque nous avons toujours pratiqué notre religion. C'était peut-être parfois des idéalistes. Et je pense que nous étions surtout des patriotes et des panafricanistes.
La Marche du Monde vous invite à Ouagadougou, chez Jacqueline Kizerbo, figure féminine des manifestations du 3 janvier 1966 qui ont amené Maurice Yaméogo à quitter le pouvoir. C'était il y a 50 ans et c'est juste après les infos sur RFI.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite du portrait sonore de Jacqueline Kizerbo dans La Marche du Monde, avec Françoise Kizerbo, sa fille.
Ma mère Jacqueline Kizerbo, née Koulibaly, qui est de la lignée des Massassi à Ségou, et qui est la fille de Lazare Koulibaly, mais aussi la petite fille de célèbre représentant de cette lignée-là. grâce à sa mère aussi, qui était une femme de caractère, et évidemment à son époux qu'elle a rencontré à Bamako, incarne pour moi la combativité. On parle beaucoup d'activisme aujourd'hui. Elle a été une activiste parmi d'autres. Et en cela, elle a aidé beaucoup de personnes, des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes, à se développer et à s'investir à leur tour au service des communautés. Elle a, à sa manière, matérialisé leur devise commune, sa devise et celle de Joseph Kizerbo, qui est « on ne développe pas, on se développe ».
On ne développe pas, on se développe. Une vision pour l'Afrique mise en œuvre par l'action militante de Jacqueline Kizerbo en tant que membre et cofondatrice du MLN, le mouvement de libération nationale dirigé par Joseph Kizerbo, et en tant que syndicaliste, elle propose un nouvel idéal aux enseignantes qu'elle côtoie. Selon l'historienne Alice Tiendré-Béogo, ancienne ministre et spécialiste de l'éducation des filles, l'engagement de Jacqueline Kizerbo dépasse largement sa vocation d'éducatrice.
Autant Jacqueline Kizerbo avait de l'admiration pour son mari, autant il avait de l'admiration pour sa femme. Jacqueline Kizerbo et son mari faisaient vraiment un couple très soudé et partageant les mêmes convictions. Je pense qu'ils formaient vraiment un couple moderne. Couple moderne dans la mesure où ils discutaient ensemble. Et il acceptait que sa femme, elle sortait beaucoup parce qu'elle était dans beaucoup de mouvements féministes, si je puis dire. Et pour moi, Jacqueline Kizerbo a toujours été un modèle, à la fois active dans sa profession, mais également par la façon dont elle nous a amenés à nous impliquer dans la vie politique. L'un des plus grands au fait, ça a été la marche des jeunes filles le 3 janvier 1966, qui a abouti entre autres à la chute du président Maurice Yamoko.
Les syndicats ont donné un mot d'ordre de grève pour le 3 janvier.
Pierre-Marie Yamouyogo est alors professeur, membre du MLN et syndiqué.
Maurice Yamouyogo, il est parti en voyage de noces et il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc, il a voulu faire un abattement de 20% du salaire de tous les fonctionnaires. Et les syndicats se sont coalisés parce que c'était trop dur. Et en plus de ça, il y a eu le problème de la double nationalité. C'était une façon d'exploiter. Parce que les voltaïques sont très nombreux en Côte d'Ivoire. La double nationalité allait surtout profiter à la Côte d'Ivoire. Parce que si les voltaïques avaient, n'est-ce pas, des problèmes, nous ne pouvons pas les défendre. Nous devons nous retrouver, tous les syndicats, à la place d'armes pour manifester. Il y avait des militaires pour nous intimider, en disant, celui qui fait un pas au sein de la place d'armes, ils allaient tirer. Lorsque nous avons vu venir les lycéens et ceux de l'école normale, portant une pancarte en disant, nous voulons du pain, de l'eau et de la démocratie.
Nous voulons du pain, de l'eau et de la liberté.
Et c'est à ce moment-là que j'ai aperçu Madame Jacqueline Kizerbo dans la marche. Et puis les filles du coup normal étaient là autour d'elle, etc.
Anatole Nyamiogo est scolarisé au lycée Philippe Zenda.
On nous lançait des grenades lacrymogènes. Et en fait, à un moment donné, nous, on a entendu l'armée au pouvoir et nous avons tous répété en chœur l'armée au pouvoir.
Les manifestations ont commencé pour que je m'en aille. Ça s'est étendu jusqu'au cours normal, etc. Et tout, et Mme Kizerbo, qui dirigeait les collègues des jeunes filles, a mis ses filles dans la rue en disant que j'ai bouffé l'argent de l'État, il n'y a plus rien pour faire nourrir les élèves et tout. Tout ça pour montrer qu'il fallait que Maurice parte. C'est justement à partir de ce moment-là que j'ai vu que je ne pouvais plus rester.
Maurice Yamiogo, premier président de la Haute-Volta indépendante.
C'est moi-même qui ai démissionné. L'armée ne m'a rien demandé. C'est les syndicalistes qui ont dit « l'armée au pouvoir ».
Bon, Madame Kizerbo est restée vraiment une figure très marquante au cours de cette journée du 3 janvier 1966 parce que c'est d'abord la dame qui était entourée de toutes ses filles du coup normal et puis entourée aussi de tous les marcheurs. Et elle marchait, elle criait des slogans. Mais Imaginez, elle était la seule professeure africaine, n'est-ce pas? Et donc, ça se voyait comme, si vous voulez, le nez sur le visage. Tout le monde la connaissait.
Jacqueline Kizerbo, vous restez ici, à Ouagadougou, dans la mémoire collective de l'élite, comme une mère, une éducatrice, parce que vous êtes madame qui? Vous êtes celle qui avait dirigé le cours normal de jeunes filles ici à Ouagadougou à partir de 1962. Mais vous êtes aussi une militante. Et vous êtes entrée dans l'histoire, Jacqueline Kizerbo, le 3 janvier 1966. Comment se passe cette journée particulière pour vous?
Mais le 3 janvier 1966, comme moi j'étais syndiqué, on avait un mot d'ordre de grève. On a décidé qu'il y aurait une marche et j'ai rejoint le groupe vers ce qu'on appelait à l'époque le campement des députés, où se trouvent aujourd'hui les archives nationales. Et à cet endroit-là, j'ai été approché par des gendarmes qui m'ont demandé de monter dans leur jeep. Et une partie des jeunes filles qui étaient internes était venu à la barrière pour voir ce qui se passait dans la rue. Donc, aussitôt après, elles ont ameuté leurs camarades et elles sont allées pour me chercher à la gendarmerie et exiger qu'on me libère.
Les filles du coup normal avaient été alertées que Madame Ki était transférée à la gendarmerie. Et bien sûr, nous avions eu des leaders qui nous ont demandé d'aller revendiquer la libération de notre directrice. Et c'est ainsi que nous sommes partis, de façon innocente, mais guidés par l'amour que nous avions pour cette dame.
Halima Traoré, médiateur du FASO, une des filles de Madame Ki.
J'ai dans ma mémoire ces deux images, sorties avec les pancartes pour aller à la place de la Révolution. Et lorsque on l'a fait sortir, le fait que les filles du coup normal l'aient portée en triomphe pour la ramener à l'internat.
Pour quelles raisons avez-vous été arrêtée, Jacqueline Kizerbo, le 3 janvier 1966?
Moi, je n'avais pas de pancarte, mais c'est peut-être parce que j'étais l'épouse de Joseph Kizerbo. Et on n'était pas ensemble, mais peut-être ils se sont dit, bon, ben, si on l'arrête, peut-être on verra le mari.
Inutile de vous dire que nous étions plus ou moins le fer de lance de tout ce mouvement.
Joseph Kizerbo.
Et le syndicat des enseignants était vraiment très bien organisé. Nous y étions pour quelque chose. Et je crois que c'est un des plus grands syndicats que je connaisse dans l'Afrique francophone au sud du Sahara.
Lors de la manifestation du 3 janvier 1966, vous manifestez en tant que femme de Joseph Kizerbo ou bien en tant qu'enseignante syndiquée?
J'étais une militante à part entière. Je manifestais comme les autres marcheurs. Nous, les grévistes, nous marchions pour avoir de meilleures conditions de travail. Il y avait aussi le deuxième mariage de Maurice Amehogo. Il y avait aussi la question de la double nationalité. Nous, notre manifestation, c'était à ce niveau-là.
À l'époque, vous êtes enseignante syndiquée, vous êtes responsable de la presse syndicale.
Moi, j'étais responsable de la presse syndicale, du SNEAM, la voix des enseignants.
L'exercice politique avait lieu dans les syndicats, sous la présidence de Maurice Yaméogo.
Oui, c'était l'époque des partis uniques. Donc, c'est surtout dans le cadre des syndicats que les populations, notamment les travailleurs, pouvaient exprimer leurs revendications et essayer d'obtenir satisfaction.
Jacqueline Kizerbo, vous qui vous êtes engagée pour l'indépendance de la Haute-Volta et pour la construction nationale de la Haute-Volta, que pensez-vous de l'attitude de Maurice Yaméogo?
Je crois que Maurice Yaméogo était assez autoritaire. Moi, je me souviens d'une rencontre qu'il a accordée aux syndicalistes en son palais. Il nous a dit de venir. On pensait que bon, il allait peut-être nous écouter et qu'il y aurait des échanges. Mais en réalité, ça a été une mise en garde Donc il y avait beaucoup d'autorité dans sa manière de traiter les problèmes.
Il y avait aussi beaucoup de gabegies. Comment se comportait ce premier président de la Haute-Volta?
On trouvait qu'il y avait beaucoup de dépenses d'un côté et beaucoup de besoins de l'autre. Et qu'il fallait quand même équilibrer un peu les choses et réduire les dépenses et mieux répondre aux besoins des travailleurs.
Est-ce que l'attitude du président vous choquait?
Je n'approuvais pas, mais bon, la tentation est grande hein, quand on est au pouvoir d'exagérer un peu sur la manière de vivre. Mais nous, c'était les revendications salariales et le respect des droits des travailleurs qui nous préoccupaient.
Collectif burkinabé a retenu la bravoure de Jacqueline Kizerbo en ce 3 janvier 1966, où la rue a précipité le départ de Maurice Yaméogo. Bien que ce soit l'armée qui ait finalement pris le pouvoir et pour de longues années, l'expérience du 3 janvier 1966 a été une expérience fondatrice pour les syndicalistes et militants du MLN, et notamment pour les femmes. Alice Tiendrebeogo participe à la création de l'association Entraide Féminine.
J'ai connu d'abord Jacqueline Kizerbo au niveau de l'entraide féminine voltaïque à l'époque. Et pratiquement, les femmes qui étaient MLN sont allées à l'entraide féminine. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que la première des choses qu'elle a dit, il faut alphabétiser les femmes. C'était clair hein, que dans l'association, nous devions toutes être des bénévoles. C'était un engagement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire l'alphabétisation, à faire des cours du soir pour celles qui n'ont pas été à l'école. Parce que l'objectif quand même, c'est de conscientiser les femmes et de leur donner des outils dans leur vie. Donc c'était quand même un choix politique. Mais c'était très intelligent. Parce qu'à cette période-là, nous avons été une des premières associations à faire de l'alphabétisation. Et ce n'était pas seulement... A, B, C, D. Il y avait aussi des rencontres de sensibilisation sur un certain nombre de problèmes que rencontraient les femmes. Bon. Déjà, on ne parlait pas de planning familial, mais on expliquait pourquoi c'était important de faire en sorte que les enfants ne viennent pas tous les 2 ou 3 ans. Parce qu'il y a le problème de l'excision, il y a un certain nombre de problèmes qui restent encore d'ailleurs, malheureusement. Donc, c'était quelque chose de longue haleine. Mais c'est quand même Madame Kizerbo qui nous a vraiment, elle nous a beaucoup conseillé. Elle se faisait discrète, mais en fait c'était elle hein, qui avait les idées. C'est elle qui nous a amenés à faire un foyer de jeunes filles qui existe toujours. Hein. Il est au quartier Larlès et actuellement ce sont des étudiantes qui sont là-bas. Et c'est elle aussi qui a intercédé auprès d'une association allemande pour que nous puissions créer une maison de la femme. Avec justement ces différentes activités. Donc je dis cela parce que effectivement, Jacqueline Kizerbo, elle a été la conscience de notre association, tout en restant toujours discrète. Et il y a quelque chose qui ne dépend pas de notre collaboration, hein, mais qui est très important et que souvent on a oublié dans son action d'éducatrice, c'est elle qui a fait prendre le décret autorisant les filles enceintes à continuer leurs études, alors qu'à l'époque, on les renvoyait. Eh bien, jusqu'en 1994, il y avait un séminaire à l'île Maurice. C'est le Forum des éducatrices africaines qui l'avait convoqué. Et il se trouve que nous étions le seul pays à avoir fait ça. Après cela, bon, les gens ont commencé à nous imiter. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de fondateur. Ce n'est pas seulement le fait de dire « la fille va continuer ». Pour moi, j'ai vu beaucoup de cas de filles que nous avons supportées. Mais c'est pour montrer en quoi c'était injuste par rapport justement aux garçons. Et c'était une façon aussi de réhabiliter les jeunes filles. Nous, nous avons travaillé avec des jeunes filles qui ont été en grossesse au niveau du forum de mon association. Nous en avons actuellement, hein, qui sont docteurs en médecine, docteurs en mathématiques, etc. Donc, ce sont des filles qui, s'il n'y avait pas eu ce décret fondateur, n'auraient jamais fait ce genre d'études. On a l'air de croire que c'est simplement bon, une petite affaire, mais c'est vraiment un élément important pour les femmes. Tout est important. C'est-à-dire, Jacqueline Kizerbo a eu une vision.
Le complexe d'infériorité chez la femme africaine tient à beaucoup de facteurs. Le meilleur moyen de guérir ce complexe d'infériorité, c'est la libération de la personnalité et de l'intelligence de la femme par l'accès à l'éducation, l'apprentissage de longue haleine de la prise de parole en public par la jeune fille dès le plus jeune âge. Les parents doivent éviter d'inférioriser les filles.
Jacqueline Kizerbo, votre militantisme s'est concentré sur une question fondamentale qui est celle de l'éducation, de l'enseignement et de l'émancipation des femmes. Est-ce que pour vous, il était nécessaire de vous investir au-delà de votre pays, dans des organisations internationales, pour faire avancer la situation des femmes ?
Je pense que dans les années 70, les organisations internationales prenaient beaucoup d'importance dans la détermination des politiques des pays. Donc, travailler au niveau international de ces organisations, c'était faciliter la prise de décision au niveau national. Et ce qui me plaisait dans ce travail, c'est que quand j'allais dans les pays, je travaillais avec les gouvernements, avec notamment les ministères du plan qui définissent les stratégies et les politiques, et de voir dans la définition des stratégies et politiques et plans de développement comment déterminer les besoins des femmes et les inclure dans ces politiques. Parce que si les besoins des femmes ne sont pas considérés à ce niveau-là, au moment de l'élaboration des projets, elles n'y seront pas. Et donc, il n'y aura pas de ressources pour répondre à ces besoins.
Est-ce que 1975 a été une année décisive ?
1975, je crois, pour l'ensemble des femmes du monde, a été une année extrêmement importante. De même que la création des Nations Unies pour la paix et le développement l'a été pour l'ensemble de l'humanité, 1975 a été le tournant décisif pour les femmes du monde.
Année internationale de la femme. À l'initiative des Nations Unies dans tous les pays, on va réfléchir sur la situation de la femme dans le monde. La France, seule nation qui possède un secrétariat d'État à la condition féminine, participera donc à ces manifestations. Françoise Giroud a pris les choses en main. Elle a exposé son programme à Arlette Chabot.
La France a décidé d'organiser 3 journées de rencontres internationales à Paris. Rencontres au cours desquelles seront présentes, ont été conviées en tout cas, toutes les femmes qui ont des responsabilités gouvernementales dans les pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest et dans les pays francophones. Je crois que c'est la première fois qu'une telle rencontre sera organisée et je crois qu'elle peut être assez intéressante puisque par définition ces femmes ont quelque chose à raconter quant à leur propre trajectoire, à leur propre expérience et aux conclusions qu'elles tirent de leur situation de femmes à l'intérieur de groupes de décision qui restent tout de même très dominés par les hommes.
C'est à cette époque-là qu'on a créé un centre d'alphabétisation à une vingtaine de kilomètres de Ouagar et avec l'appui des villageois qui venaient aussi même assister aux séances de sensibilisation.
Alice Tiendrebeogo, historienne et ancienne ministre.
Donc Jacqueline Kizerbo, elle a joué un rôle de mentor pour moi, mais elle a joué un rôle de mentor pour l'association. C'était l'association qu'elle supportait. Et elle me donnait également énormément de conseils. Et après, j'ai continué en créant avec les femmes ministres de l'éducation le Forum for African Women Educationalist qui a une section ici à Ouagadougou. Et le principal problème, c'est l'éducation des femmes et des filles. Parce que c'est cette éducation qui va leur donner des atouts pour le reste. Et nous, donc, nous avons mis l'accent sur l'éducation des filles et des femmes avec la lutte contre un certain nombre de choses comme l'excision, la lutte contre les violences sexuelles faites aux filles dans les écoles, dans les routes, etc. Donc c'est un combat, mais c'est un combat qui est quand même inspiré par Madame Jacqueline Kizerbo.
Je pense que nous devons être des centaines de délégués pour les femmes. Nous devons toutes nous donner la main, être solidaires et constituer un front de femmes se sentant envoyées par leurs sœurs sans voix, pour changer la perception des femmes, de leur rôle, de leur contribution à la construction de leur pays. Tout comme on développe des politiques dans un pays, on devrait aussi développer une politique de prise en compte des besoins des femmes dans le développement.
Beaucoup d'exigences à l'égard de vos filles, Jacqueline Kizerbo, on l'entend à travers leurs témoignages, mais beaucoup d'exigences vis-à-vis de vous-même. Vous avez formé 3 à 4 000 jeunes filles après l'indépendance, et certaines d'entre elles ont atteint les plus hautes fonctions. On l'a bien compris, pour vous, c'est bien sûr d'abord recevoir un bon enseignement, mais aussi recevoir une bonne éducation, prendre conscience de sa condition, s'émanciper pour pouvoir travailler et être indépendante. Mais reste entière la question de la représentativité politique des femmes.
Le pouvoir, il est politique. Et bien sûr, bon, il y a le pouvoir économique. Mais il faut aussi avoir la possibilité de décider justement la répartition des ressources, la répartition des équipements, même la répartition des écoles, si importante pour l'éducation des filles. Et si on n'est pas dans les institutions de prise de décision, il y a certains problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Donc c'est extrêmement important que les femmes accèdent au pouvoir politique et l'exercent au même titre et à égalité de chance avec les hommes.
Jacqueline Kizerbo, pour vous, quel est le fil conducteur entre votre militantisme au MLN avec votre mari, votre militantisme dans les syndicats étudiants, votre militantisme lorsque vous participez aux manifestations qui vont favoriser la chute de Maurice Yaméogo, votre militantisme lorsque vous partez travailler dans les organisations internationales pour le développement des femmes, quelle est la cohérence de ce parcours du point de vue du militantisme?
Et je crois que le fil conducteur, comme je l'ai dit à propos de l'éducation, c'est vraiment la confiance et la responsabilité avec un attachement profond à l'Afrique. C'est ça.
Est-ce que vous avez le sentiment, à l'échelle de votre vie, que la femme africaine aujourd'hui est debout et qu'elle a pris son avenir en main? Est-ce que réellement le statut de la femme africaine a changé?
Je pense que tous les efforts que nous avons consentis pour la promotion et la libération des femmes, tous ces efforts-là sont pris en compte aussi par les générations qui viennent. Je vois les femmes qui occupent des responsabilités aujourd'hui, responsabilités administratives, responsabilités politiques. Je crois que c'est le combat qu'on a mené et qui continue à être mené, donc l'espoir est permis.
Est-ce que c'est justement parce que pour vous, il n'y a pas de libération des femmes sans que toutes les femmes soient concernées et pas seulement les femmes éduquées? Est-ce que vous avez voulu étendre votre combat à l'ensemble des femmes et particulièrement aux paysannes? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes partie dans les organisations internationales?
La majorité des femmes rurales n'a pas accès aux mêmes droits et aux mêmes possibilités que tous les citoyens d'un pays donné ou tous les citoyens de l'Afrique. Si cet accès n'est pas assuré, la lutte est nécessaire et doit continuer. You have to defend your rights. Get up, stand up.
La lutte est nécessaire et doit continuer, nous dit Jacqueline Kizerbo. Un message d'espoir délivré depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, où je suis allée la rencontrer afin qu'elle puisse partager avec nous son expérience unique de militante et d'éducatrice. Depuis, Jacqueline Kizerbo s'en est allée. C'était le 15 décembre 2015, après avoir choisi RFI et la Marche du Monde pour témoigner de son engagement pour les femmes. Jacqueline Kizerbo, l'éducatrice, et Jacqueline Kizerbo, la militante, sont deux épisodes de La Marche du Monde, réalisés par Cécile Pompeani, avec la complicité de Lazare et Françoise Kizerbo, la voix de Joseph Kizerbo et les archives de l'INA. Écrivez-nous marche.monde@rfi.fr. Réagissez les filles sur notre page Facebook, podcastez cette émission, c'est la vôtre.